VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
13h30 ici à Washington, 18h30 en temps universel. Bonsoir et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Je suis Alexandrine Croix-Lognon. Au sommaire de l'actualité présidentielle en RDC, trois candidats dont l'ancien Premier ministre Matata Ponyo se désiste et annonce leur ralliement à Moïse Katumbi. 32 morts dans une série d'attaques dans une région contestée entre le Soudan et le Soudan du Sud. Ce dernier appelle à une enquête urgente. Les actes du Hamas sont répréhensibles, mais la réponse est inexcusable, selon Azali Assoumani, président de l'Union africaine. Alors que l'armée israélienne étend ses opérations dans la bande de Gaza, nous serons au Niger pour les magazines. Le Niger qui vient de mettre en place une commission pour lutter contre la délinquance économique, financière et fiscale. Et vous aurez la Minute Éco et la page des sports avec Yacouba Ndrango. Démarrons avec la RDC. La RDC où la campagne présidentielle a démarré hier en vue des élections générales du 20 décembre. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo annonce son ralliement à Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. Le point avec Nanit Talani.
En vue de maximiser les voix et surtout pour faire échec à la manœuvre du pouvoir qu'il accuse de préparer une fraude électorale massive, M. Matata Ponyo estime dans son message que l'urgence d'une candidature unique de l'opposition s'impose. Selon lui, à la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, Moïse Katumbi se dégage comme le seul candidat pouvant conduire le ticket de l'opposition représenté par quatre grands partis et groupements qui en préparent à ses assises. Cette annonce fait suite aux discussions qui se sont tenues du 13 au 17 novembre en Afrique du Sud, entre des émissaires de cinq candidats de l'opposition, dont Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Denis Mukwege et le député Délice Sanga. Le camp de Martin Fayulu n'a pas adhéré à ce projet. L'aspiration profonde du peuple doit transcender nos égos et nos ambitions personnelles, dit Matata Ponyo, en invitant les deux autres participants aux travaux de Pretoria, ainsi que tous les autres candidats soucieux de l'avenir de la RDC et de son peuple, à se joindre à Moïse Katumbi pour assurer une victoire certaine aux élections du 20 décembre. Au total, 26 candidatures, dont celle du sortant Félix Tshisekedi, ont été enregistrées pour ce scrutin présidentiel à un seul tour, couplé à des législatives provinciale et municipale, et dont la campagne a déjà commencé depuis hier.
Le président sortant, Félix Tshisekedi, a en effet lancé sa campagne dans un stade plein à craquer de la capitale Kinshasa. Tshisekedi, 60 ans, est arrivé au pouvoir en 2018 et cherche à obtenir un nouveau mandat après 5 ans. Il a exhorté ses partisans à lui confier un nouveau mandat pour consolider ses réalisations. Plus de 43 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 20 décembre prochain dans des élections générales. L'un des principaux opposants au régime militaire au Tchad prône la réconciliation avec le pouvoir à un mois d'un référendum constitutionnel. Succès Masra a exhorté dimanche des centaines de ses partisans à l'apaisement et à ne pas réclamer vengeance. Le président du parti Les Transformateurs est rentré d'exil le 3 novembre après avoir signé un accord de réconciliation avec le pouvoir du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Cet accord conclu à Kinshasa prévoit une amnistie générale pour les responsables des meurtres de manifestants le 20 octobre 2022. Et nous parlons de cette série d'attaques dans l'Abyé, région disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud. L'attaque a fait 32 morts, dont un casque bleu. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ces attaques, perpétrées dimanche dans deux comtés par des milices armées et des soldats portant des uniformes de l'armée du Soudan du Sud, ont été condamnées par un représentant gouvernemental de l'Abyé, territoire riche en pétrole à la frontière du Soudan et du Soudan du Sud. D'après Boulis Kor Agar Ajif, ministre de l'Information de l'Abyé et porte-parole du Soudan du Sud pour la région, parmi les personnes tuées, on compte des enfants et des femmes brûlées dans leurs huttes et plus de 20 personnes blessées. Le Soudan du Sud a appelé à une enquête urgente. Située entre le Soudan et le Soudan du Sud, la région d'Abyé est un point de tension depuis l'indépendance du Sud en 2011. Plus tôt ce mois-ci, une envoyée régionale de l'ONU avait exprimé ses craintes que les combats entre les factions rivales se disputant le pouvoir au Soudan se rapprochent de la frontière du Soudan du Sud et de l'Abyé. selon Anna Tété, envoyée spéciale de l'ONU pour la Corne de l'Afrique, la crise en cours au Soudan a entraîné la suspension des discussions entre les deux pays sur ce territoire disputé de longue date.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Hamas a affirmé que l'armée israélienne a lancé ce lundi une frappe meurtrière sur un hôpital du nord de la bande de Gaza, où les soldats ont étendu leur offensive contre le mouvement islamiste palestinien qui accuse Israël de mener la guerre contre les hôpitaux. Les précisions avec John Linden.
Dans le sud, 29 bébés prématurés évacués la veille de l'hôpital Al-Shifa, pris d'assaut le 15 novembre par l'armée israélienne, sont arrivés lundi en Égypte via le pont de passage de Rafah. L'hôpital Al-Shifa, qui abritait selon Israël un repère du Hamas au cœur de la ville de Gaza, est privé d'électricité et la pénurie de carburant empêche les couveuses de fonctionner. Dans le nord du territoire où se concentre l'essentiel de l'offensive israélienne, selon le ministère de la Santé du Hamas, une frappe a tué au moins 12 patients et leurs proches et fait des dizaines de blessés dans l'hôpital indonésien au bord du grand camp des réfugiés palestiniens de Jabalia. Le Qatar, qui mène une médiation pour tenter d'obtenir la libération de quelques 240 otages selon Israël, en échange d'une trêve, a affirmé dimanche qu'il ne restait que des obstacles très mineurs en vue d'un accord sans fournir de calendrier.
Et le président de l'Union africaine condamne la riposte israélienne à Gaza, jugeant qu'elle n'était pas excusable au vu des victimes civiles et qu'elle conduirait à nourrir l'extrémisme. Les actes du Hamas sont condamnables, mais la riposte n'est pas excusable, a déclaré Azali Assoumani en marge d'une réunion du forum G20 dédiée à la promotion de l'investissement privé en Afrique. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a assuré au président ukrainien Volodymyr Zelensky de la pérennité du soutien de Washington face à l'invasion russe lors d'une visite à Kiev. La visite intervient alors qu'aux États-Unis, dans le camp républicain, des voix s'élèvent contre les dizaines de milliards d'aides à l'Ukraine débloquées par l'administration démocrate de Joe Biden. L'économiste ultralibéral Javier Milei est le président élu de l'Argentine suite à sa retentissante victoire dimanche. Son élection ouvre la voie à une période d'incertitude pour la troisième économie d'Amérique latine, à laquelle il promet une thérapie de choc. Le point avec Dili Dico.
Javier Milei, un homme politique anti-système, positionné contre les péronistes et les libéraux au pouvoir en Argentine depuis 20 ans, est parvenu à distancer le ministre centriste de l'économie, Sergio Massa, de plus de 11 points. Il a obtenu 55,6% des voix contre 44,3% pour son adversaire, selon des résultats partiels après dépouillement de 99% des bulletins. L'ampleur de la victoire a surpris. Le président élu, 53 ans, prendra ses fonctions le 10 décembre. Il a promis dans son discours la fin de la décadence et la reconstruction de l'Argentine, tout en avertissant qu'il n'y aura pas de demi-mesure. C'est une nuit historique pour l'Argentine, a-t-il lancé à plusieurs milliers de partisans en liesse à l'extérieur de son quartier général de campagne à Buenos Aires. Le pays est confronté à une inflation de 143%, un taux de chômage élevé, la pauvreté et l'insécurité. Le nouveau président a redit sa détermination à remettre en ordre les comptes budgétaires et à régler les problèmes de la Banque centrale.
Dans l'actualité également, Microsoft embauche Sam Altman, le cofondateur et ex numéro 1 d'OpenAI, la start-up à l'origine de ChatGPT dont le limogeage a surpris vendredi. Sam Altman et Greg Brockman, tous deux fondateurs, cofondateurs d'OpenAI, vont rejoindre avec d'autres collègues Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche dans l'AI, a écrit son patron Satya Nadella sur la plateforme X. Peu après, l'ancien patron de Twitter, Emmett Shear, a annoncé avoir accepté le poste de numéro 1 d'OpenAI par intérim. Il a promis d'engager un enquêteur indépendant pour enquêter sur l'éviction de Sam Altman et réformer l'équipe de direction au cours des 30 prochains jours. Voilà qui met fin à l'actualité sur VOA Afrique dans le monde aujourd'hui. Restez avec nous, la deuxième partie de cette édition dans quelques instants. présent, la Minute Éco avec Nanit Talani.
En Afrique du Sud, le plus grand producteur de volailles, Astral Food, a enregistré une perte sur l'ensemble de l'année à cause de la crise de l'électricité et de la pire épidémie de grippe aviaire du pays qui lui ont coûté 108,9 millions de dollars, annonce la compagnie. Astral ajoute que les délestages perturbent ses programmes d'abattage et augmentent le coût des aliments pour animaux. Au Kenya, les services ferroviaires de transport de marchandises à destination et en provenance du port de Mombasa ont repris après une interruption suite aux inondations qui ont endommagé une section de la voie ferrée le week-end, a annoncé ce lundi la compagnie ferroviaire Kenya Railways. Le chargement et le déchargement des marchandises ont repris. Le service des passagers fonctionne normalement. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour minimiser les retards, a déclaré l'opérateur ferroviaire. Terminons par les douanes chinoises qui annoncent qu'elles autorisent l'importation de grains de café frais en provenance d'Éthiopie. Connu comme le berceau du café, l'Éthiopie est le cinquième plus grand producteur de café au monde. Les exportations de café lui ont rapporté 578 millions de dollars en 2022.
L'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Alexandrine, bonsoir à tous.
Débutée hier, la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026, Zone Afrique, se poursuit.
Oui, après son entrée en matière réussie devant le Tchad, le Mali fait face à la République centrafricaine au stade du 26 mars de Bamako. Les Tchadiens, eux, essaient de se relancer face à Madagascar, laminé 9-0 par la Côte d'Ivoire lors de la première journée. Les Seychelles défient le Kenya. Un peu plus tôt, la Guinée-Bissau a battu Djibouti 1-0. Pour le moment, le Soudan prend la tête du groupe B devant le Sénégal après avoir battu 1-0 la République démocratique du Congo. L'Égypte victorieuse 2-0 de la Sierra Leone est seul leader du groupe A avec 6 points, tout comme le Gabon et l'Algérie dans les poules F et G. Les Panthères sont allés battre le Burundi 2-1 pendant que les Fennecs ont dominé le Mozambique 2-0. Cette seconde journée se poursuit demain et prendra fin mercredi.
Le Nigeria n'y arrive pas, mais ne peut licencier son sélectionneur.
À nouveau tenu en échec par le Zimbabwe, un but partout, les Super Eagles totalisent 2 points au terme des 2 premières journées. Après ses contre-performances, la Fédération nigériane de football licencierait volontiers son sélectionneur Rossi Pesero si elle avait l'argent pour payer ses indemnités. Selon Nze Essien, membre de la Fédération nigériane de football, la qualification du Nigeria pour la Coupe du Monde 2026 est déjà compromise après ces 2 matchs nuls des Super Eagles concédés face aux modestes Lesotho et Zimbabwe lors de leurs 2 premiers matchs qualificatifs. Le Nigeria va recevoir en juin 2024 l'Afrique du Sud à Uyo avant un déplacement délicat au Bénin. Dans le groupe C, l'Afrique du Sud est en tête avec 3 points et 1 match en moins. Les Bafana Barfana pourraient creuser le cas demain lors de leur déplacement au Rwanda. Le premier du groupe est qualifié directement pour la Coupe du Monde, alors que le second dispute les play-offs.
On finit avec les nouvelles de la nuit dernière ici en NBA.
À Brooklyn, les Sixers de Philadelphie ont dévoré les Nets 121-99. Le MVP camerounais Joel Embiid n'a eu besoin que de 3 cartons pour marquer 32 points assortis de 12 rebonds et 9 passes décisives. De son côté, la star des Suns de Phoenix, Kevin Durant, a joué son 12e match consécutif à 25 points ou plus, la plus longue série du genre de l'histoire de la franchise de l'Arizona. Il a marqué 39 points lors de la victoire de Phoenix 140-137 contre les Utah Jazz. Les Celtics de Boston s'en sont sortis de justesse sur le parquet des Grizzlies de Memphis. 102-100, LeBron James est devenu le 4e joueur à plus de 10 500 passes décisives dans l'histoire de la NBA lors de la victoire sur le fil des Los Angeles Lakers contre les Houston Rockets 105-104. Les Denver Nuggets, champions en titre, ont chuté à Cleveland contre les Cavaliers 121-109. À Toronto, les Raptors de l'autre Camerounais Pascal Siakam ont battu les Pistons de Détroit 142-113.
Merci Yacouba Ouedraogo pour l'actualité sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez VO Afrique, le monde aujourd'hui. Alexandrine Rolognon toujours avec vous. À présent, les magazines de ce lundi. En République démocratique du Congo, désistement des quelques candidats de l'opposition à l'élection présidentielle en faveur de Moïse Katumbi, juste au début de la campagne en vue des élections générales du 20 décembre. Eddy Issango a joint à Kinshasa Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre, qui a rejoint le camp Katumbi.
Je ne suis pas le seul. Il y a déjà deux autres candidats qui se sont ralliés. Francis Diongo ainsi que Seth Kikuni qui se sont ajoutés aujourd'hui déjà à la liste. Et moi, je pense que chemin faisant, il y aura certainement d'autres candidats qui vont se rallier à ce groupe. Et voilà, donc c'est un début qui a commencé hier avec un parti, un chef du parti. Aujourd'hui, il y a deux partis qui ont suivi. Je suis convaincu que par les jours à venir, on aura d'autres candidats.
Et dans votre discours d'annonce, vous dénoncez les manœuvres qui sont faites pour que, de toutes les manières, les présidents qui sont en place restent au pouvoir et sont censés pouvoir faire basculer les choses avec tout ce que vous faites maintenant, ou vous y allez sans conviction?
Bon, écoutez, on n'y va pas sans conviction, on y va avec la volonté, la détermination de gagner, ça c'est clair.
Nous si les jeux étaient déjà faits d'avance.
Nous dénonçons cela pour permettre effectivement d'atténuer la capacité de fraude et la capacité de corruption.
Vous étiez 5 représentés en Afrique du Sud, mais on sait que Martin Fayulu fait son chemin et hier le docteur Mukwege a annoncé qu'il n'y a pas encore eu en fait une conjonction de points de vue sur cette matière. Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt aller dans un ordre dispersé? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment en Afrique du Sud?
Celui de Martin Fayulu n'a pas donc siégé. Donc, les conclusions qui sont sorties sont les conclusions uniquement des 4 partis politiques. Voilà pourquoi, en soutenant le parti Ensemble et la candidature de Moïse Katumbi, j'ai demandé aux 2 autres partis, c'est-à-dire le parti en vol d'Eli Sesanga et le parti ou le groupement des docteurs Mukwege, de pouvoir suivre mon pas. Comme vous l'avez vu, le communiqué final a été signé uniquement par 4 partis politiques.
La campagne a commencé. Vous préparez pour faire jonction, aller tous, ou je ne sais pas comment ça va se faire. Parce que là, vous annoncez quand la campagne électorale a commencé.
Oui, la campagne électorale a commencé hier. Et moi, j'ai annoncé mon désistement et mon ralliement et hier même. Donc, je le fais à temps opportun. Et il y a déjà 2 partis qui sont ensemble. Ensemble de Moïse Katumbi, LGD de Matata Ponyo. 2 partis viennent de se joindre aujourd'hui. On suppose que d'autres partis vont rejoindre sérieusement, vous le savez, jusqu'à la dernière journée des campagnes. D'autres partis, d'autres groupements politiques peuvent toujours rejoindre les camps de l'opposition, les camps du peuple.
Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre congolais, au micro d'Eddy Issango. Allons au Niger, où le chef de la junte militaire a mis en place récemment une commission pour lutter contre la délinquance économique, financière et fiscale. Elle aura pour mission de recouvrer tous les biens publics illégalement acquis ou détournés. Au micro de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa, quelques acteurs de la lutte contre la corruption ont exprimé leur attente.
À l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, la section nigérienne de Transparency International, on est plutôt sceptique au regard des résultats obtenus par les commissions de même type mises en place sous les différentes transitions que le pays a connues. Maman Wada, président de l'ANLC.
Nous n'attendons pas grand-chose, n'est-ce pas, de cette commission-là. D'autant plus que, d'abord, elle prête serment devant celui qui l'a créée. Nous avons parcouru le texte. À l'article 2, on dit qu'on peut transiger. On peut s'entendre sur quelque chose de commun. Et puis et laisser la personne. Et mieux, on dit que l'action publique s'éteint. Elle ressemble aux autres commissions qui n'ont pas donné grand-chose, Nous sommes au Niger, les mêmes pratiques, ça va produire les mêmes effets.
Même appréhension chez Nassir Obodo, militant d'un mouvement politique indépendant.
Nous aurions aimé que cette tâche soit simplement remise dans les mains de la justice et laisser la justice faire son travail exclusivement, parce qu'elle en a les moyens, elle en a les ressources humaines qualifiées, elle en a aussi les instruments juridiques nécessaires à de telles poursuites.
Les deux mandats de l'ancien président Issoufou Mahamadou et les deux ans de règne de Mohamed Bazoum ont été émaillés par des scandales économiques et financiers pour lesquels les citoyens réclament justice. Si la COLDEF réussit cela, elle aura déjà fait œuvre utile, estime de son côté Adam Oumarou, président du réseau nigérien anti-corruption.
Le peuple attend de voir d'abord poser cette question de l'Uranium Gate, cette question de MDN Gate, la question aussi de la gestion du pétrole. Et vous avez aussi, en matière de passation de marché, là où vous avez le dossier, le fameux dossier Covid, la gestion de la Covid-19, où vous avez des matelas d'une place qui ont été achetés à 400 et quelques mille francs CFA.
Consciente des fortes attentes des populations, les membres de la commission, après leur prestation de serment, ont promis de travailler sans relâche. Soli Abdoulaye, membre de la COLDEF.
On va travailler sérieusement parce que nous sommes sous serment et les uns et les autres qui sont des indélicats, qui ont été donc inconséquents, doivent aussi comprendre que nous sommes liés à un serment divin. Et donc il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de demi-mesure. On doit faire les choses en bonne et due forme et dans la foi requise.
En tout cas, les dossiers à épulcher sont nombreux. Il s'agira de nettoyer les écuries d'Ojas et les Nigériens attendent de voir les résultats concrets. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Au Gabon, c'est à la fin de ce mois que la primature boucle la collecte des contributions citoyennes, une étape qui précède la tenue du dialogue national inclusif et du référendum proposé par les militaires au pouvoir. La junte envisage de rendre le pouvoir aux civils à l'issue des élections en août 2025. Cet agenda fait débat au sein de l'opinion publique. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
2 ans de transition militaire, mais le timing est très discutable au sein de l'opinion publique à Libreville. Ntoutoumeyi, journaliste.
On a ceci de particulier que depuis 1991, par exemple, on avait une excellente constitution. Il faut juste la réadapter, l'actualiser sur 3 ou 4 dispositions. Est-ce qu'on a besoin de 2 ans pour ça? Non. C'est la même chose pour le code électoral, simplement. Pour actualiser les textes, on avait besoin au maximum de 6 mois, maximum 1 an.
Pour Ordela, diplômé sans emploi, il faut accorder plus de temps au comité pour la transition et la restauration des institutions pour garantir le succès de ces énormes chantiers.
Il faut au moins 4 ans, 5 ans pour pouvoir rendre le pays au civil. Même rendre le pays au civil, là, pour faire quoi. Les civils, ils sont restés là pendant des années, c'est 60 ans, 50 ans qu'ils sont restés là. Ils n'ont rien fait.
Bien que confiée aux assises du futur dialogue national, la durée de la transition pose aussi le débat de l'éligibilité du nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Clotaire Oligingema, maître Luc Gaston Maïla de l'Union pour la Nouvelle République.
Traditionnellement, ceux qui préparent les institutions ne se présentent pas aux élections. Mais je ne serais pas fâché que M. Oligui se présente s'il se sentait la capacité, s'il laisse la fonction pendant un temps puis qu'il se présente. Personnellement, je ne serais pas fâché.
Sur les projets de réforme institutionnelle attendus, le dialogue national inclusif aura par exemple le choix entre le régime présidentiel et le régime semi-présidentiel. Des concertations auxquelles souhaitent prendre part les candidats aux élections législatives et locales de 2023. Guy Roger Kombila Mundunga et coordonnateur du collectif.
Nous mettons à la disposition du président de la transition et du premier ministre pour prendre une part active au processus actuellement engagé dans toutes ses composantes. Nous nous engageons à verser des propositions concrètes aux assises nationales à venir.
Dans moins de 2 semaines, le secrétariat chargé de collecter les contributions citoyennes va boucler sa mission. Des propositions enregistrées serviront de base de discussion aux travaux du dialogue national censé préparer les prochaines élections du Gabon. Ismaël Obiangze pour VOA Afrique, Libreville.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Une série d'attaques dans l'Abyé, région disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud, a fait 32 morts hier, dont un casque bleu situé entre le Soudan et le Soudan du Sud. La région d'Abyé est un point de tension depuis l'indépendance du Sud en 2011. Selon Anna Tété, envoyée spéciale de l'ONU pour la Corne de l'Afrique, la crise en cours au Soudan a entraîné la suspension des discussions entre les deux pays sur ce territoire disputé de longue date. Yacouba Ouédraogo a joint à Paris Roland Marchal, chercheur en sciences politiques.
Pour revenir aux accords de paix entre le Soudan et le Sud-Soudan, au moment où les accords sont signés, il y a le problème de la démarcation de la frontière entre les deux pays, puisque le Sud-Soudan devient indépendant. Évidemment, la question également qui est pétrolière, mais aussi humaine, sur la zone d'Abyé, qui est une zone riche en pétrole, avec la volonté, si vous voulez, de Khartoum et de Djouba de jouer une carte initialement assez dure pour obtenir le maximum. L'accord qui a été fait a été de disposer de troupes internationales qui ont gelé la situation sans la résoudre. Et évidemment, la question qui est posée aujourd'hui, c'est quel est l'avenir de cette zone, sachant qu'il y a des combats au nord, que bon, la situation au Sud-Soudan reste quand même toujours très difficile. Hein. Il y a une tentative de coup d'État apparente qui vient d'être réprimée. Et d'une certaine façon, on s'interroge sur les moyens de l'armée soudanaise dans la mesure où c'est le gouvernement soudanais, donc contrôlé par l'armée soudanaise, qui obtient les allocations liées au pipeline qui emmène le pétrole du Sud-Soudan vers Port-Soudan pour l'exporter.
Jusqu'ici, qui contrôle Abyé ?
Vous avez une force d'interposition. Il y a eu des moments de tension, mais fondamentalement, l'incertitude a valu comme paix. C'était une paix négative, puisque le problème n'était pas réglé. Et donc le fait qu'il y ait des incidents aujourd'hui semble indiquer que certains, j'imagine plutôt au nord, voudraient changer cette situation, sans que je sache très bien qui est à la fin responsable de ces affrontements.
Alors, qu'est-ce qu'il faut craindre par rapport à cette région au regard du conflit présentement en cours au Soudan?
Écoutez, je crois que l'essentiel de la violence à l'heure actuelle se déploie essentiellement au Darfour et dans une toute petite partie du Kordofan, enfin, qui est hélas trop grande, mais pas l'ensemble du Kordofan. Donc c'est là où il y a l'essentiel des violences, c'est là où il y a le plus de morts. Vous avez ensuite Khartoum, et puis vous avez des clashs qui peuvent provoquer des victimes, mais ces clashs en général ne durent pas et sont, disons, contenus par la force dominante relativement rapidement. Donc je ne crois pas que Abyé soit destiné à devenir une zone de combat meurtrier comme l'est aujourd'hui El Geneina ou Zelingué ou sans doute demain El Fasher.
Roland Marchal, chercheur en sciences politiques.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci pour votre fidèle attention. Alexandrine Frolognon à la présentation, Georges Léonard Seignot était à la production. Retrouvez la grande ligne de l'actualité africaine et d'ailleurs suivez voafrique.com et sur nos réseaux sociaux Facebook, X, YouTube et Instagram.